Bonsoir, bonsoir et bienvenue à tous pour ce troisième cours du cycle consacré aux objets du désir qui porte comme sous-titre « Spoliation, trophée, conquête, une constante anthropologique ». Avant de commencer, j'aimerais dédier ce cours, et parce qu'on parle depuis trois semaines maintenant de musées, de destruction, de dilapidation de musées, dédier ce cours aux victimes de l'acte terroriste et barbare qui a eu lieu la semaine dernière au musée du Bardo à Tunis, musée du Bardo, dont il sera un peu question aussi aujourd'hui dans ce cours. J'y tenais beaucoup, et j'y tenais d'autant plus que les déplacements patrimoniaux ne sont pas des destructions patrimoniales. On y reviendra. Comme je l'ai fait les deux fois précédentes, je vais résumer les épisodes précédents pour ceux qui n'auraient pas pu venir, et puis me lancer donc dans la troisième étape consacrée aujourd'hui à des questions d'argent. Les deux premiers cours s'intitulaient « Le temps long de la mémoire » et « Fécondation esthétique ». Je vais les résumer dans un instant. Le troisième, comme je le disais, est consacré à l'argent des spoliations ou aux questions économiques liées à ces grands déplacements, à ces translocations patrimoniales. Dans un premier temps, il a été d'abord question de terminologie. De quoi on parle, comment on en parle, c'est pourquoi j'avais proposé, plutôt que de dire spoliation, Kunstraub, Beutekunst, spoliation, et en italien, d'utiliser le terme de translocation patrimoniale, qui a l'avantage de ne pas charrier avec lui des implications idéologiques, historiques et autres. Dans un second temps, intitulé « Le temps long de la mémoire », il avait été question d'objets qui racontaient combien ils avaient attendu longtemps avant d'être restitués et, plus généralement, de la question des mémoires des générations lors de pertes d'objets. Pertes d'objets liées à des douleurs fantômes, ça avait été le troisième temps de la première leçon, douleurs fantômes liées à l'absence ou à la présence de l'absence d'œuvres dans des contextes historiques différents. Et puis j'avais fini en posant la question des musées impassibles, c'est-à-dire de la manière dont les musées aujourd'hui peut-être avaient trop l'impression que leur possession était naturelle et qu'ils n'avaient plus besoin, ces musées, d'expliquer pourquoi ils étaient là et pourquoi peut-être à certaines époques de leur histoire ils avaient accumulé ce patrimoine et ce capital symbolique. La deuxième leçon, intitulée « Fécondation esthétique », s'occupait des objets. Dans la première, j'avais adopté le point de vue des victimes, de celles qui avaient été dépossédées, de celles qui souffraient. Dans le deuxième temps, il avait été question d'objets qui transposaient dans d'autres cultures, partant d'une culture d'accueil, d'une culture source à une culture d'accueil, provoquaient quelque chose là où ils arrivaient. Le premier exemple était lié à l'art dit primitif allemand, quand il est arrivé à Paris autour de 1800, qui a pu inspirer à Paris des romantiques allemands qui n'avaient pas vu ces tableaux chez eux alors, mais qui avaient pu les voir au musée Napoléon. Le deuxième exemple était tiré des années 1900 et de l'histoire allemande, de l'histoire de l'égyptologie allemande, avec l'arrivée à Berlin en 1913 des fouilles d'Amarna, vous voyez ici Amenophis, que s'était approprié toute une génération d'Allemands autour de 1913, notamment les avant-gardes. Je vous montre ici Rainer Maria Rilke, qui s'est identifié, comme tant d'autres, complètement à la culture d'Amarna. Et le dernier exemple était tiré de notre époque. Il partait de la spoliation du palais d'été par les troupes britanniques et françaises en 1860 et à la vente d'un des objets transportés à l'époque en Europe, cette tête de rat qui a été vendue, comme vous le savez, en 2009 et qui a fait l'objet en Chine et en Europe et dans le monde d'un immense débat sur la restitution, débat que l'artiste chinois contemporain dissident Ai Weiwei a transformé en une œuvre d'art, une œuvre d'art conceptuelle, une exposition en plein air. C'était donc la deuxième séance, les objets. Et maintenant, la troisième séance est consacrée à l'argent, aux questions économiques liées à ces déplacements.
Thank you.
vous venez de voir maintenant, à l'instant, de manière un peu abrupte, est le début d'un film d'André Cauvin, le grand réalisateur documentaire belge, un film de 1946, où André Cauvin fête, dans ce documentaire, le retour de l'agneau mystique à Bruxelles. Alors, comme vous l'avez constaté, ça commence dans une mine de sel, on y voit de l'or, on y voit des tableaux. Il s'agit de la mine de Merkers, où les réserves de la Reichsbank avaient été mises à l'abri pendant la guerre, et aussi les tableaux de la Nationalgalerie à Berlin. Et par un montage non expliqué sur cette musique de la symphonie héroïque de Beethoven, dans ce mélange, Cauvin nous suggère que l'agneau mystique était aussi là-bas, à Merkers, en Thuringe, ce qui n'était pas le cas, qu'il a été retrouvé au milieu de ces tonnes d'or et qu'on le restitue, qu'on le rapatrie à Bruxelles en 1945. Drôle d'histoire, drôle de mélange, qui semble lier, mettre ensemble pour le grand public la question de l'or des nazis, du Raubgold, à la fois l'or du gouvernement allemand, mais aussi ce qu'ils s'étaient approprié, qu'on voit dans les valises, dans l'extrait de film, avec la question de Kunstraub et Beutekunst, qui sont les mêmes termes. Et vous voyez que même dans la politique éditoriale contemporaine, les éditeurs n'hésitent pas à choisir des couvertures très semblables pour évoquer ces questions. On a une mise en rapport du butin de guerre, en quelque sorte, de ces grandes dislocations patrimoniales et de la question de l'argent, qu'on trouve souvent du côté donc, des victimes. Le discours dominant, on y reviendra tout à l'heure, ou le discours qui légitime ces translocations patrimoniales ne parle évidemment jamais d'argent. En revanche, quand on adopte l'autre point de vue, le point de vue critique, la connexion est faite extrêmement souvent. Vous voyez ici une caricature de 1805 de Kruschenk qui montre Napoléon, donc, dans la version française, ce serait en train de libérer les biens du Vatican et qui, dans la version anglaise, vue de l'étranger, donc, ressemble à un pillard. On est crochu avec ses adjoints, on est crochu qui mettent de l'or dans des caisses. On est exactement dans cette mise en relation des deux thèmes. Cette mise en relation nous est familière. On l'a vu très récemment dans les grands titres qu'ont suscité l'affaire Gourlitte, l'affaire du trésor de guerre, comme le titrait Libération. Les Italiens étaient encore plus forts puisqu'ils parlaient du tesoro di Hitler, comme si Gourlitte avait à Munich amasser un trésor qu'Hitler lui aurait confié et qu'il gardait. On voit parfois même en Italie les titres « Gourlitte il custode del tesoro di Hitler », alors que c'était sa propre collection. Ou bien, encore plus loin, encore plus fort, dans Die Welt erhielt Wache über den Schatz wie Wagners Drache, il gardait le trésor comme le dragon de Wagner. On est dans la mythologie du Rheingold, des Nibelungen, du trésor à sauver, avec ce gardien, ce fils d'un collectionneur et d'un marchand du Troisième Reich qui serait représenté comme une figure mythologique, mythique. Ce lien entre la question des déplacements d'œuvres d'art qui relève de l'imaginaire historique ou du fantasme historique a été complété très récemment par ce film et en particulier par cette affiche du nouveau film thématisant les spoliations montré en février dernier à la Berlinale, donc au Festival du film de Berlin, qui thématise la restitution d'un tableau de Klimt aux États-Unis. J'y reviendrai tout à l'heure. Et l'affiche, on le voit un peu difficilement avec le projecteur ici, mais l'affiche est comme de l'or, comme une feuille d'or. Et la femme en or, ici, se bat, comme vous le voyez en haut, pour la justice. Morale, argent, spoliation, restitution, tout ça dans l'imaginaire collectif est mélangé pour faire une sorte de paquet inextricable. Et mon but aujourd'hui est d'essayer, en ayant bien conscience qu'il faudrait des heures pour le désextriquer, de déployer les fils différents de cette question du lien entre argent et déplacements patrimoniaux. L'exposé s'articulera en trois volets. Le premier s'intitule « Le prix des prises », où il sera question de l'investissement économique lié à ces grands déplacements. Le second s'intitule « Estimer l'inestimable », où se posera la question du prix des œuvres saisies, donc gratuitement, qui viennent augmenter gratuitement un patrimoine donné, mais qui, quand elles arrivent dans leur lieu de destination, prennent un prix ou non, et comment on fait pour estimer ces œuvres, ces chefs-d'œuvre inestimables. Et le troisième volet s'appelle, c'est une citation d'un journal, d'un quotidien allemand de 2006, « Morale, und Millionen », où il sera question du rapport entre les restitutions des biens juifs et la question des représentations de l'argent dans ces discussions. Et puis pour commencer, je voudrais rappeler, dans un tout petit premier volet qui s'intitule « Pour l'amour de l'art », comment ceux qui pratiquent, les prédateurs, ceux qui pratiquent ces grands de confiscation, comment eux justifient leur prise. Évidemment, il n'est jamais question d'un capital qu'on s'approprierait. Les discours légitimatifs portent toujours sur d'autres questions. Autour de 1794, c'est surtout la liberté qui justifie ces grands mouvements de centralisation du patrimoine européen à Paris. L'art de la liberté doit être concentré au pays de la liberté. Je vous montre ici l'un des textes déterminants ou fondateurs de la théorie du patrimoine libéré française, un texte de 1794 prononcé par Jacques-Luc Barbier dans la salle des machines des Tuileries, qu'on voit esquissé derrière. C'était alors l'endroit où siégeait la Convention, qui était, puisqu'elle était aux Tuileries, détruite en 1871. Jean-Luc Barbier, donc, parle, s'adresse à la Convention quelques jours après les premières saisies opérées en Belgique, en 1794. Les ouvrages immortels que nous ont laissés les pinceaux de Rubens, de Van Dyck et des autres fondateurs de l'école flamande ne sont plus dans une terre étrangère. Réunis avec soin par les ordres des représentants du peuple, ils sont aujourd'hui déposés dans la patrie des arts et du génie, dans la patrie de la liberté et de l'égalité sainte dans la République française. C'est là, c'est au Musée national, que désormais l'étranger viendra s'instruire. L'homme sensible y viendra verser des larmes devant les productions des siècles passés. Et l'artiste décoré du feu du génie y viendra puiser des modèles que son mâle pinceau, libre des chaînes du despotisme, pourra peut-être surpasser. On est très très loin de questions d'argent, vous le voyez, mais bien dans des idéaux qui dépassent complètement la question de l'augmentation des collections nationales. Si on se projette au XXe siècle et qu'on regarde comment, par exemple, l'Union soviétique a justifié pour le grand public, pour l'opinion publique, l'emballage et le déménagement des collections de Dresde et de Berlin à Moscou, on est dans une même logique. Là, c'est la beauté, l'amour de la beauté, les larmes, l'émotion patrimoniale qui justifie le mouvement.
Merci d'aller.
Les officiers russes, dans ce film de 1961 de Leo Arnstam, sont en état de contemplation maximum, dans un état sacré devant la Madone Sixtine qui avait été acquise en 1745 pour Dresde. Et au moment de l'emporter à Moscou, ils sont saisis d'une grande émotion, soulignée par la musique de Shostakovich dans ce film qui se met à devenir de plus en plus forte. Je vous ai épargné les scènes suivantes. Et cette émotion patrimoniale, le fait que les Russes, les officiers soviétiques soient tant saisis par cette œuvre justifie qu'elle parte à Moscou. Là encore, il n'est pas du tout question d'amasser un trophée, un capital réel qu'on pourrait ensuite utiliser comme monnaie de rechange. Donc, nous en venons contre ce discours officiel, en quelque sorte, à la face cachée des translocations patrimoniales et en particulier à ce que j'appelle le prix des prises, c'est-à-dire au coût d'abord, dans un premier temps, de ces grands déplacements. Car ces grands déplacements d'œuvres d'art sont des entreprises de logistique considérables et pas seulement des entreprises destinées à appuyer la rhétorique de la liberté ou de la beauté. Nous sommes à Rome, vers 85 avant Jésus-Christ. L'État romain, à cette époque-là, a fait des butins, des prises d'œuvres d'art après les guerres, une finalité politique. Les expositions dans l'espace public de ce genre d'œuvres sont devenues des manifestations éclatantes, politiques aussi, de la pérennité du pouvoir romain. Et à ce moment-là, en 85 avant Jésus-Christ, un bateau arrive sans doute de la région de Grèce, on ne sait pas exactement d'où, à sans doute, les archéologues ne sont pas sûrs de la question, vous allez voir de quoi il retourne exactement, sans doute après le pillage de la Grèce par Sylla lors des guerres civiles. Ce bateau qui devrait arriver en Italie coule au large de la Tunisie, à Madia, et c'est seulement en 1948 qu'une équipe commandée par le commandant Cousteau fait un premier acte d'archéologie sous-marine et retrouve dans ce bateau des quantités d'œuvres d'art en marbre, en bronze, des colonnes, des éléments d'architecture, etc. Je vous en montre simplement quelques-unes, donc des fouilles sous-marines de Madia qui aujourd'hui sont conservées au musée du Bardo à Tunis. Cette découverte de l'épave de Madia est un grand moment pour l'historiographie des spoliations d'œuvres d'art, notamment, puisqu'elle permet pour la première fois de comprendre les routes qu'utilisent les navires, la circulation de certaines œuvres, et notamment aussi la taille des embarcations utilisées pour ce genre d'opération. Les fouilles de Madia ont donné l'occasion notamment récemment à une grande exposition où une grande partie du catalogue est consacrée à Kunstraub und Kunsthandel dans la Grèce antique, donc au vol d'œuvres d'art et au marché de l'art, au lien très étroit entre l'un et l'autre, puisque, et c'est la thèse de plusieurs archéologues, en fait le marché de l'art antique naît de ces grands déplacements patrimoniaux, de ces spoliations, de ces appropriations du patrimoine grec. Alors l'un des grands enjeux de cette fouille a été la reconstitution du bateau, un immense navire extrêmement coûteux. Avec ça, on comprend, et les archéologues nous expliquent, que le déplacement de ces œuvres d'art était une entreprise qui engageait aussi beaucoup de fonds et qui n'est pas une chose qui se fait facilement. Si on saute les siècles et qu'on arrive autour des années 1800, on voit qu'aussi la campagne d'Italie, les campagnes de Belgique, les campagnes d'Allemagne opérées par la Révolution et l'Empire apportent ou accordent une extrême attention d'abord aux chariots qui ont transporté les œuvres d'art au-delà des Alpes. Donc vous voyez ici par exemple un chariot qui a servi au transport des tableaux d'Italie, un chariot patenté en quelque sorte avec un système de ressorts spéciaux pour éviter les vibrations trop grandes. On est très bien informé aussi des investissements qui ont dû être faits, notamment, par exemple, pour détacher des fresques des murs. Vous voyez ici la déposition de croix de Daniele da Volterra, qui a été peinte en 1545 pour la chapelle Orsini de l'église de la Trinité des Monts à Rome, et que la France a voulu détacher du mur. On a tous les dossiers sur cette question aux Archives nationales dans la série O de 839. Vous voyez ici, par exemple, sur le budget de 1809, une somme de 6 000 francs allouée et qui porte le titre « Fresque de Daniele da Volterra, état de proposition de paiement à compte délivré à l'artiste Palmaroli, chargé d'enlever de dessus le mur la descente de croix peinte par Daniele da Volterra. » C'était une affaire qui roulait déjà depuis 10 ans, 1809. Ça fait 10 ans que la France essayait de détacher correctement cette fresque. Vous savez que ce n'est pas la seule fresque qui a été emportée en France. Elle a été détachée, ça a duré encore jusqu'en 1910, elle a été finalement détachée, mais les Italiens ont réussi à ne pas la faire emporter en expliquant qu'elle était certes, elle n'était plus sur le mur, mais qu'elle était extrêmement fragile et qu'on ne pourrait pas la déplacer. Énorme investissement donc en argent, d'une part, mais aussi en expertise de différents artistes impliqués dans ces opérations. Il ne faut pas imaginer que les translocations, les transpositions patrimoniales se font hors du monde du marché de l'art, hors du monde des arts en général. Les acteurs qui agissent ici sont souvent les mêmes, Palmaroli, sont souvent les mêmes qui par ailleurs agissent dans le marché de l'art. Et d'ailleurs, la question des collaborations avec l'ennemi serait une question qui pourrait nous occuper aussi et qui est centrale. Autre preuve du grand investissement que le dépouillement des collections européennes par la France autour de 1800 a induit. Vous voyez qu'après, non seulement en amont, pour détacher les œuvres, il faut payer, investir des sommes, il le faut pour les transporter, mais il faut aussi des sommes considérables. Ensuite, à l'arrivée des œuvres, pour les mettre en état, je vous montre ici un fonds de 30 000 francs. 30 000 francs, c'est un tiers du prix de la Joconde à l'époque, pour la restauration des tableaux statues de la conquête de 1806 et du Quadrige de Berlin. C'est seulement un appel de fonds. On en a beaucoup, et d'ailleurs, ça vaudrait sans doute la peine de faire une somme, de tenir le livre et de faire une somme de toutes les dépenses engagées par la France pour concentrer à Paris ce capital donc très symbolique, mais qui aussi, vous allez le voir ensuite, un capital bien réel. Si on se projette encore dans la continuité historique au XXe siècle, on voit que le Einsatzstab de Rosenberg, ce qu'on appelle en France de l'abréviation allemande le ERR, c'est-à-dire l'équipe d'intervention de Rosenberg qui s'occupait dans l'Europe entière des confiscations de biens, y compris pour le, non seulement, mais aussi pour le musée de Linz. Vous voyez que cet organisme, avec ses filiales réparties dans toute l'Europe, son personnel très important, ses déplacements constants, a aussi été une machine qui avait besoin de budget et qui en a utilisé de très nombreux. Donc d'abord, l'appareil de spoliation est un appareil qui consomme de l'argent, et par ailleurs, les œuvres spoliées ne passent pas toujours et directement des collections où elles étaient spoliées aux destinataires, aux spoliateurs, mais elles passent en particulier au XXe siècle par le marché de l'art. Je vous montre ici une double page du livre de compte de Gurlitt, donc le fameux Gurlitt qui a été évoqué au début du cours. Donc Hildebrandt, Cornelius Gurlitt, c'est le fils qui avait dans ses papiers confisqué les livres de compte de son père Hildebrandt. Et là, alors, tels qu'ils ont été mis maintenant en ligne par l'Allemagne, et si on zoome, on le voit mal ici, mais on voit que des sommes considérables sont mises en œuvre pour faire passer des œuvres. Ici, on voit écrit Paris. Tout ça, c'est une double page qui montre des œuvres saisies à Paris, acheté sur le marché parisien et revendu, on voit les sommes ici, notamment pour le musée de Linz. C'est difficile à lire sur ce document, mais là encore, le marché de l'art, donc depuis l'Antiquité, mais jusqu'à nos jours, et on l'a vu avec les déprédations et les destructions opérées en Syrie, le marché de l'art est toujours lié à la question des déplacements d'œuvres d'art, qu'elles soient détruites ou non, ou qu'elles soient simplement déplacées. On ne peut pas opérer une séparation fine entre les deux. Un bel exemple de ce lien entre l'argent investi pour obtenir la beauté, en quelque sorte, et cette caricature à nouveau de Cruikshank de 1816, où on voit le gouvernement britannique, ici, essayer de convaincre John Bull, c'est-à-dire l'allégorie ou l'incarnation du britannique lambda, d'acheter ces belles sculptures rapportées par Lord Elgin d'Athènes. Alors, le gouvernement britannique dit elles sont en très bon état, c'est des cailloux, des pierres en très bon état, ça ne coûte que 35 000 livres. Et quand vous voyez ça, il ne faut évidemment pas penser à acheter du pain, c'est ces pierres qu'il faut acheter. On voit les enfants de John Bull qui crient là, « Non, papa, non, n'achète pas de pierres, achète-nous du pain, achète-nous du pain. » Et John Bull lui-même qui se demande pourquoi, alors que les Elgin ont obtenu tout ça gratuitement, pourquoi il fallait maintenant investir 35 000 livres juste pour l'emballage et le transport. La question qui est posée ici est la question donc de l'arrivée, de l'achat par une collection nationale, dans le cas échéant, dans le cas présent, l'achat par une collection de quelque chose qui n'a rien coûté au départ, qu'on s'est approprié, mais les coûts se sont faits ensuite pour le déplacement. Alors cette question, et ce sera mon dernier point dans cette première partie, on y trouve aussi des éléments de réponse dès l'Antiquité. Je retourne avec vous dans la Rome antique et je regarde dans le livre 35 de l'histoire naturelle de Pline, cette première histoire de l'art ou cette source très précise et précieuse pour l'histoire de l'art à l'époque, dans l'Antiquité. Pline nous explique que le premier à avoir montré des peintures étrangères à Rome est Mummius, Lucius Mummius, et on va voir comment il explique cette mise en public d'une peinture étrangère. Le premier à Rome à conférer une valeur officielle à des tableaux étrangers fut Lucius Mummius. En effet, lors de la mise en vente de son butin, c'est-à-dire son butin venu de Corinthe, le roi Attale avait acheté 600 000 deniers un tableau d'Aristide représentant Liber Pater. Là-dessus, Mummius, surpris de la somme et soupçonnant qu'il y avait dans l'œuvre quelque chose qui lui échappait, fit récupérer le tableau, malgré les vigoureuses protestations d'Attale, et l'exposa dans le sanctuaire de Cérès. Ce fut, à mon avis, la première peinture étrangère présentée au public à Rome. Alors là, on voit bien comment la prise de guerre faite par ce Lucius Mummius, qui est présenté comme un ignorant, qui n'y comprend rien, arrive sur le marché à Rome, vente aux enchères. Le roi Attal achète pour beaucoup d'argent un tableau, et là, Mummius se rend compte qu'il a fait quelque chose de, sans doute de mal, puisque ce tableau semble avoir une très grande valeur. Il le reprend, donc il le vend pas, il le reprend et l'expose en public. Là, on a quelque chose d'extrêmement intéressant entre la question de l'appropriation brutale, de l'arrivée sur le marché de l'art et de la question du musée. Le musée étant un lieu où l'œuvre arrive et n'a plus de valeur marchande, mais plus qu'une valeur symbolique, ce qui me sert de transition pour arriver au deuxième volet de ce cours, estimer l'inestimable. La question qui se pose ici, c'est donc comment des œuvres prises par la force, sans dépenses d'argent ou avec des dépenses d'argent inadéquates auprès des victimes, comment ces œuvres, quand elles arrivent au musée, acquièrent, en plus de leur valeur symbolique, de leur valeur politique, une valeur économique. Comment elles l'acquièrent ou est-ce qu'elles l'acquièrent? Alors nous voici à nouveau avec notre ami Denon, Dominique Vivant Denon, d'abord en 1807 à Dresde. En 1807 à Dresde, comme en 1945 l'Union soviétique, en 1807 à Dresde, Dominique Vivant Denon voit la Madone Sixtine de Raphaël et tente de convaincre Napoléon de la faire emporter à Paris. Dresde, c'est-à-dire la Saxe, à ce moment-là est alliée de la France et Napoléon refuse de déposséder un allié. On a la lettre de Dominique Vivant Denon à Napoléon pour tenter de le convaincre. L'électeur de Saxe m'a fait dire qu'il désirait me connaître, écrit Denon à Napoléon qui se trouve, qui n'est pas à Dresde. J'ai pu voir dans sa conversation qu'il n'avait nul goût particulier pour les chefs-d'œuvre qu'il s'est possédés. Extrêmement intéressant, marqueur, hein, ça c'est un marqueur pour nous dans ses discours, il n'y connaît rien, ça ne l'intéresse pas. Tandis que nous, en sous-texte, nous savons ce qu'il a et ce serait tellement mieux en France. Il n'en offrira cependant jamais aucun à votre majesté. Les articles d'argent, qui dans les traités ne se payent jamais en entier, pourraient ici se compléter par quelques morceaux qui deviendraient des valeurs effectives, puisqu'ils rentreraient complètement et resteraient éternellement dans le trésor de votre gloire. Donc on pourrait, dans le cadre d'un traité de paix, prendre ces œuvres-là, qui arriveraient éternellement dans le trésor de votre gloire, c'est-à-dire qu'ils arrivent au musée, qui est leur destination finale, dont ils ne ressortent plus, et qui est la gloire pour des générations entières, qui serait la gloire de Napoléon. Tel petit que fût le nombre des objets qu'exigerait votre majesté, il serait toujours d'un grand prix. Un seul tableau de Raphaël, il s'agit de la Madone Sixtine, de la collection de Dresde, a été payé par le roi Auguste 9000 louis. Il vaut le double pour votre majesté. Ce n'est point une dépouille que je propose à votre majesté en lui demandant d'exiger 4 ou 6 tableaux d'une collection qui en renferme 2000, dont 200 sont capitaux, et qui contient des tas d'or, de diamants et de perles. Ce n'est pas mon enthousiasme qui vous parle, sire, mais la conscience de mon devoir. Alors là, évidemment, ce n'est pas le discours officiel de la France à ce moment-là, elle n'explique pas que les œuvres seront mieux conservées à Paris et plus visibles. Denon explique, pour des raisons de stratégie, bien sûr, et de tactique politique, explique à Napoléon, qui est plus sensible à l'argent qu'à la beauté, qu'une œuvre comme ça pourrait constituer un capital bien réel et utile à Paris. Napoléon refuse, et Dresde, la collection de Dresde a été la seule de l'espace germanique à être épargnée par les appétits de la France ou de Dominique Vivant Denon en 1807-1810. Quelques années plus tard, vous voyez Stendhal apparaître dans cette question du capital symbolique et du capital réel. Quelques années plus tard, en octobre 1810, ou dès le début de l'année 1810, Dominique Vivant Denon est sommé d'établir un inventaire général de toutes les œuvres qui, depuis 1794, ont été réunies au musée Napoléon. Lui-même travaille avec ses collègues à un inventaire raisonné, un catalogue raisonné qui serait un catalogue plus historique, mais Daru, c'est-à-dire le gouvernement économique aussi, le gouvernement de la France, demande qu'on fasse un inventaire statistique. Alors, on est dans le grand siècle de la statistique. Il va falloir recenser les tableaux comme on recenserait des personnes, sans faire de grands textes sur leur qualité, leur beauté, leurs auteurs, etc., mais qui permettraient de savoir ce qu'on possède. On ignore la vraie raison de cette demande d'inventaire. Ce qu'on sait, c'est que c'était très pressant et quand donc la demande arrive au début de l'année 1810, Dominique Vivant-Denon, qui n'est pas très chaud pour faire un inventaire sec comme ça parce qu'il veut écrire des textes, laisse traîner. Et en octobre 1810, arrive le jeune Stendhal, encore Henri Bell, qui est chargé par Daru, son cousin, de s'occuper de faire avancer les choses. Alors, à ce moment-là, il écrit... Il faut que je la cherche, excusez-moi. Il écrit à Dominique Vivant-Denon une lettre qui a été conservée juste il y a quelques semaines aux archives du Louvre, qui sont en train d'être déménagées à Pierrefitte, comme vous le savez, transposition patrimoniale, et qui ne seront qu'accessibles à nouveau à la mi-avril. Donc je lis la lettre ici, je n'ai pas pu, hélas, la reproduire. Stendhal écrit à Denon: « Avec ce nouvel inventaire, nous pourrons décrire en une ligne un tableau quelconque, si beau qu'il soit, même la Transfiguration. » Notre travail n'aura pas la beauté pittoresque, mais il aura la beauté administrative, la clarté et la brièveté. Alors cet inventaire clair et bref, le voici. D'ailleurs, la lettre de Stendhal est accompagnée d'un modèle de cet inventaire. Vous le voyez, les colonnes sont déjà pré-imprimées. Elles ne font pas plus que 7 cm de large. Inutile d'essayer d'y raconter beaucoup de choses sur les artistes ou sur les motifs. Et elles se distinguent des autres inventaires qui existent évidemment dans toutes les collections depuis les origines des collections, et en particulier depuis le XVIIIe siècle, où le genre de l'inventaire s'était spécialisé. Elle a une colonne, une double colonne que vous voyez ici. Prix de l'estimation de l'objet et prix de l'estimation du cadre ou du piédestal. Alors ça, pour nous, c'est une source considérable, puisque d'abord, c'est la première fois qu'on note le prix d'œuvres arrivées dans des musées, le musée étant l'endroit où on ne les vend pas, où elles ne vont pas ressortir. Donc pourquoi, s'interroge-t-on, pourquoi cette colonne prix? Alors la colonne prix, je vais rentrer tout de suite dans les détails, mais je vous montre qu'elle marche absolument en tandem avec la colonne origine. Dans la colonne origine, il ne faut pas penser qu'on trouve des origines comme Paris, Berlin, etc. On trouve les origines, on trouve le propriétaire précédent, pape, roi de Prusse, etc. Enfin, donc, c'est une origine qui est un capital symbolique. À qui les a-t-on prises? Il y a aussi l'ancienne collection du roi pour les œuvres qui venaient de Versailles. Donc ici, en quelque sorte, c'est la colonne capital symbolique. Où est-ce qu'on a pris, dans quelle capitale, justement, dans quelle capitale avons-nous saisi ces œuvres et pourquoi ce lieu précédent leur apporte une valeur symbolique? Et puis, juste à côté, donc, la colonne prix d'estimation de l'objet. La grande question, c'est comment estimer un objet qui, par exemple, comme le groupe du Laocoon ou comme la Transfiguration, n'avait jamais bougé de Rome, des collections pontificales dans un cas et dans l'église pour laquelle elles avaient été peintes dans l'autre cas, depuis le début du XVIe siècle. Comment donner un prix à ça? Alors vous voyez, je suis entrée dans les détails pour 3 exemples, que la Transfiguration, ici, est estimée 1,5 million de francs. C'est une somme qui, évidemment, est complètement abstraite, qui devait représenter beaucoup d'argent. On sait qu'elle représente 10 belles maisons dans les quartiers bourgeois de Paris, ou 7 fois et demi la rente d'un duc. Beaucoup d'argent. 1,5 million. Le groupe du Laocoon, 1,5 million. Et l'Apollon du Belvédère, 1,5 million. Ces 3 œuvres-là posent la barre très haut. Ce sont les œuvres qui, dans l'histoire du goût, dans l'histoire de l'Europe, étaient de toute façon les top de l'imagination ou de la culture européenne. Mais en plus, on leur met un prix qui maintenant va correspondre, un prix réel, enfin, un prix fantasmé réel qui va correspondre à leur valeur symbolique. Les voilà pour 1,5 million. Et alors, l'inventaire Napoléon a l'extrême qualité de nous permettre de descendre l'échelle des prix jusqu'à 1 franc et, en quelque sorte, de nous donner en somme chiffrée quelque chose qui est l'histoire du goût de l'époque. Plutôt que de lire beaucoup sur l'histoire du goût, de lire des critiques d'art, etc., il suffit de lire la liste de prix. Et si on la mettait sur une base de données, par exemple, qui serait un joli projet, on aurait tout de suite une espèce d'échelle des valeurs. Je me suis amusée pour vous, alors pardonnez-moi, c'est ludique, mais il me semble que ça raconte tout de même des choses, à faire ce jeu pour quelques œuvres. 1,5 million, ce sont simplement ces trois-là. Les noces de Cana, que nous avions déjà évoquées la semaine, au premier cours, remporte 1 million. La descente, le premier tableau flamand, donc d'abord, c'est l'Antiquité et la Renaissance italienne qui est tout en haut du tableau, j'allais dire du tableau de chasse presque. Puis, les premières œuvres flamandes et hollandaises apparaissent à la jauge de 600 000 francs avec la descente de croix saisie à Anvers de Rubens, saisie en 1794. Le retable du jugement dernier de Memling, que nous avions évoqué la dernière fois, je l'ai choisi parce qu'il nous est familier, n'est taxé qu'à 60 000 francs. Et si on s'amusait à compléter la pyramide, on aurait, alors, en plus des œuvres que je viens de citer, dans une fourchette allant entre 1 million et 500 000 francs, la Madone de Foligno de Raphaël et à peu près tout l'œuvre de Raphaël, d'autres Rubens, la Diane de Versailles, le Saint-Jérôme du Corrège, il est où? Il est là, à 1 million. Et puis on peut descendre les deux statues de fleuve à 700 000 et 500 000, alors le Nil et le Tibre. Et puis ça continue. À 100 000, on trouve les panneaux centraux de l'Agneau Mystique, l'Adorant de Berlin et les esclaves de Michel-Ange. La Joconde apparaît à 90 000. Et on pourrait faire défiler tout ça jusque tout en bas, tout en bas, tout en bas, avec des petits bronzes saisis dans la collection Bellori à Berlin, dans la Kunstkammer du roi de Prusse, taxés 200 francs. Comment dire de manière plus claire que le capital symbolique et politique réuni au musée Napoléon est aussi, et peut-être avant tout, un capital bien réel, et que la France a manifestement intérêt à savoir combien d'argent représente, et là j'utilise le terme avec toute la prudence requise, mais ce trésor réuni au centre de Paris. Troisième et dernière partie, morale und Millionen. Vous avez vu, en tout cas j'ai essayé de montrer que le lien entre prise, transport et appropriation par des collections nationales est le lien où se joue la question du capital. On prend sans payer, on déplace à grands frais et on dispose ensuite d'un capital éventuellement considérable. C'est là que les choses se jouent et elles se jouent de cette manière particulière parce que le musée, dans la tradition des musées depuis le XVIIIe siècle ou plus tard en tout cas, est un lieu de l'inaliénabilité, un lieu dont les œuvres ne ressortent plus. Donc elles ont une valeur, mais une fois qu'elles ont cette valeur, elles ne vont pas être revendues ou ressortir. C'est une valeur nommée. Les choses sont tout à fait différentes quand les œuvres ne retournent pas au musée ou ne vont pas au musée, mais se retrouvent sur le marché de l'art. Sur le marché qui n'est pas forcément un lieu de visibilité ou qui est un lieu de visibilité provisoire et qui est un lieu de circulation. L'œuvre est sur le marché, elle disparaît peut-être pendant quelques temps, elle y retourne. Et cette question-là fait que, depuis un certain nombre d'années, les questions des restitutions d'œuvres spoliées par les nazis aux familles juives d'Europe est une question qui, dans les médias, est toujours, toujours associée à la question de l'argent. Je vais prendre deux exemples dans un instant. Je voudrais peut-être, en rappelant cette lettre de Dominique Vivant-Denon à Napoléon, redire qu'évidemment, il y a que le discours qu'on porte sur cet objet des translocations patrimoniales est toujours un discours qu'il faut remettre en contexte. Napoléon, Denon, quand il s'adresse à Napoléon pour le convaincre, parle d'argent. Denon, quand il s'adresse à son public, parle de beauté. Je le dis parce que, évidemment, quand nous parlons aujourd'hui de la restitution de biens spoliés à des familles juives, nous sommes dans un contexte de marché, donc on parle d'argent. Personne ne demande, ou très rarement, aux gens de parler de beauté dans ces cas-là. Donc forcément, comme on parle d'argent, l'argent paraît dominant, paraît central dans ces questions. Je l'ai dit en prélude et je vais essayer d'expliquer ce que je veux dire par là. Je prends deux cas qui sont déjà des cas historiques puisqu'ils ont une dizaine d'années, et même plus, leur terme à une dizaine d'années. Nous sommes d'abord à Berlin en 2006, lorsque cette scène de rue de Ernst Ludwig Kirchner, jusqu'alors conservée au musée Die Brücke à Berlin, lorsque cette œuvre est restituée par la ville de Berlin, contre le désir du musée, contre l'opinion publique berlinoise, aux descendants de la famille où cette œuvre se trouvait pendant la guerre. Le Kirchner part aux États-Unis, va être remis sur le marché et part aux États-Unis. Je n'entre pas dans les détails de provenance qui sont toujours et comme toujours très compliqués. Il faut entrer dans les détails pour comprendre tout ça. Croyez-moi simplement que l'œuvre peinte en 1913 avait été acquise très vite par le collectionneur Alfred Hess, qu'il est mort avant la guerre, que son fils et sa veuve ont dû le vendre, qu'il est allé dans une collection, puis dans une autre collection, et qu'il a fini par être vendu en 1980 sur le marché de l'art, et par être acquis par le musée Brücke à Dahlem. Le musée Brücke à Dahlem étant la fondation des créateurs du Brücke Museum eux-mêmes, qui ne souhaitaient pas être dans les collections nationales allemandes, puisqu'ils avaient été victimes de la politique de Entartete Kunst. Donc, les peintres du groupe Die Brücke qui vivaient encore après la guerre n'ont pas souhaité que leurs œuvres, en tout cas ont souhaité qu'elles soient dans un lieu à part, et ce lieu à part, c'était le musée Die Brücke, qui est un musée dans la nature, à la périphérie du centre de Berlin. Je vais revenir tout de suite sur quelques détails. Le deuxième cas, à Vienne, en 2006, le tableau d'Adèle Bloch-Bauer, peint en 1907, qui mesure 1,38 m par 1,38 m, à la peinture à l'huile, mais avec de l'or réel. Ce portrait quitte pour 135 millions de dollars la collection du Belvédère de Vienne, où elle était, pour aller aux États-Unis. C'est dans la liste des tableaux les plus chers qui ont fait les prix les plus élevés sur le marché, la plus chère. Alors à ce moment-là, dans la presse allemande, se déploie toute une campagne qui accuse, en quelque sorte, ou qui sous-tend que les descendants des familles spoliées ne s'intéressent qu'à l'argent. Moral und Millionen, la morale et les millions, titre le Spiegel, vous voyez, on voit le tableau là, dans l'extrait que je vous montre, et le sous-titre explique que des descendants juifs veulent récupérer des œuvres. Es geht um späte Gerechtigkeit, il s'agit de rendre justice tardivement, et puis dans la même phrase, aber auch um sehr viel Geld. Il s'agit de justice, mais aussi de beaucoup d'argent. Nun lädt der Kulturstaatsminister zum Krisengipfel ins Kanzleramt. Séance de crise à la chancellerie, qu'est-ce qui se passe? Et la grande inquiétude des musées à ce moment-là, il y a 10 ans, des musées allemands, était de se voir vider de leur collection par ces personnes, qui sont en partie des avocats, avides d'argent et qui n'auraient sous-tend la presse qu'une envie, reprendre ses œuvres pour les remettre sur le marché et en priver les musées. D'autres articles font frémir. Man sagt Holocaust und man meint Geld. On dit Holocaust, mais on veut dire argent. Ou encore Geschäft mit dem Erbe, les bonnes affaires avec l'héritage. Encore un titre du Spiegel. Les trois articles que je vous ai montrés sont des articles de personnes extrêmement respectées. Le directeur du musée actuellement du V&A à Londres, Martin Roth, qui était alors directeur des collections de Dresde. Le précédent avec Holocaust et Geld était de Bernd Schulz, le directeur de la Villa Griesebach, qui s'est beaucoup engagé à Berlin pour la mémoire des mécènes juifs qui ont soutenu les collections de Berlin. Alors, on comprend mal comment s'articule ou comment a pu, il y a une dizaine d'années, je pense que de tels articles ne paraîtraient plus aujourd'hui, comment a pu sortir une telle focalisation sur cette question de descendants qui n'auraient pour intérêt que l'argent. On se pose la question d'autant plus que manifestement, depuis le début de l'histoire des translocations patrimoniales, l'argent a toujours joué un rôle central, que ce soit caché, comme dans le cas par exemple de la France autour de 1800, ou que ce soit ouvert pour des raisons médiatiques et économiques, comme aujourd'hui. Alors ce que les médias racontent peu ou racontent mal ou ignorent ou n'ont pas envie de raconter, c'est que ces deux tableaux La Strassenszene de Kirchner, remise sur le marché en 2006, et le portrait numéro 1 d'Adèle Bloch. Bauer, remis également sur le marché en 2006, sont allés l'un et l'autre dans les mains d'un collectionneur, Ronald Lauder, le fils d'Estée Lauder, elle-même émigrée hongroise, dont les parents étaient arrivés au début du XXe siècle à New York, Estée Lauder étant, comme vous le savez tous, la reine des cosmétiques milliardaires que l'on connaît. Son fils, donc, Ronald Lauder, a ouvert depuis plusieurs années à New York une galerie qui s'appelle Neue Galerie, qui porte donc un titre allemand et qui est consacrée, comme il l'explique, à l'art autrichien et à l'art allemand. Et sur la page web de ce musée, on voit en effet le portrait d'Adèle Bloch-Bauer qui lui a coûté donc plus, on ne connaît pas les prix réels, mais plus de 130 millions de dollars, et d'autre part la Strassenszene qui à l'époque avait fait aussi un prix record. Il présente ses œuvres dans une galerie située au centre de New York, une galerie qui, ou un musée public, qui recrée l'atmosphère de Vienne autour de 1900. On est dans une espèce de lieu symbolique de mémoire, un musée qui recrée une atmosphère qui est l'atmosphère des origines de Ronald Lauder et de son ami mort il y a quelques années, Serge Sabarsky, avec qui il a eu l'idée de ce musée. Donc ce musée, en rachetant sur le marché des œuvres restituées à des victimes d'espoliation, les rachète et les remet en circulation en quelque sorte dans un lieu qui est quelque chose comme une Vienne fantasmée en plein New York. Alors là, on voit comment avec de l'argent, on peut créer du sens. Avec beaucoup d'argent, est recréé à New York quelque chose qui redonne une vie, qui redonne un cadre, qui redonne peut-être un sens à ces objets, tirés de la collection de Dahlem, où elle avait été pourtant légitimement achetée, du Brücke Museum, et du Belvédère, qu'il avait reçu en partage et qui n'avait aucune intention de s'en séparer. Ces œuvres ne sont pas invisibles, elles continuent d'être visibles. Elles font, en quelque sorte, dans ce cadre, œuvre de mémoire. Le musée Neue Galerie comporte deux cafés, le café Sabarsky, qui est meublé d'imitations, de répliques de meubles viennois de Hoffmann, et puis le café Fledermaus, qui est inspiré d'un célèbre cabaret viennois des années 1900, décoré par tout ce que le Wiener Stil des années 1900 avait d'esprit créatif. Vous voyez ici une photo historique du café Fledermaus à Vienne et une photo ici du café Fledermaus à l'intérieur de la Neue Galerie de New York, où ici la mémoire de Klimt est aussi, qui est dans la maison, donc, dont les œuvres sont exposées dans ce musée, est aussi sous forme d'affiche derrière. Alors, l'idée dans cette histoire que je tente de vous raconter, c'est que tout est très compliqué et qu'on ne peut pas simplement, en arguant que ce capital, le capital mondial, essaye de soustraire des œuvres au musée, on ne peut pas simplement voir les choses s'arrêter là. Hein. La reconstitution de cette Vienne fantasmée avec des vrais originaux tirés des collections européennes, enfin tirés, non, reprises sur le marché après des restitutions des collections européennes, mime en quelque sorte l'émigration de millions de personnes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle la rejoue avec des œuvres d'art 70 ans ou 80 ans plus tard. C'est extrêmement compliqué et le message principal dans toutes ces questions, et même quand on parle de l'Antiquité, c'est la prudence. La prudence et la sensibilité à ces questions mémorielles, à ces questions de capital symbolique, d'imaginaire collectif, d'imaginaire historique, qui sont extrêmement mêlées aux œuvres d'art, qui évidemment ne sont jamais seulement du capital brut, mais sont aussi et toujours du capital affectif. Je vous montre juste pour le préciser que la Neue Galerie insiste beaucoup dans son profil sur le fait que la question des provenances est extrêmement importante. C'est la deuxième rubrique dans la prise de position des directeurs du musée. Et vous voyez qu'en effet, quand on regarde la base de données des œuvres, la provenance exacte de ces œuvres est bien précisée. Et c'est en quelque sorte, on pourrait comprendre ça comme une tentative de montrer ce que serait le musée idéal qui est transparent sur l'origine de ces œuvres. Cette base de données, dans sa précision, est évidemment très en avance sur tout ce que les musées publics, allemands notamment, peuvent donner comme transparence sur la provenance de leurs œuvres. Et je l'avais déjà dit lors du premier cours, mais cette question de la transparence sur les provenances, qu'il s'agisse d'œuvres qui ont circulé pendant la Deuxième Guerre mondiale ou d'œuvres venues pendant la période coloniale, cette question de la transparence sur les provenances est cruciale si on veut, quand on est un musée, contribuer à faire qu'on comprenne, que l'opinion publique comprenne pourquoi ces œuvres sont là et pourquoi peut-être il est légitime qu'elles restent là où elles sont. Pour finir, permettez-moi de citer un petit conte qui vient de paraître d'Arnaud Bertina, intitulé « Des lions comme des danseuses », paru aux éditions La Contre-Allée, dans la collection « Fiction d'Europe ». J'ai ouvert la première page, et je voudrais vous la lire rapidement, sur les intentions de la collection « Fiction d'Europe », qui est née d'une rencontre entre la maison d'édition La Contre-Allée et la Maison européenne des sciences de l'homme et de la société. Désireuse de réfléchir ensemble au devenir de l'Europe, la Contre-Allée et la MESHS proposent des récits de fiction et de prospectives sur les fondations et refondations européennes. Récits de fiction et de prospectives, c'est exactement ce que fait Arnaud Bertina dans ce petit conte de science-fiction qui commence en 2016. En 2016, en effet, le roi de Bangoulap, un village du pays Bamiléké, dans l'est du Cameroun, intente une procédure contre le musée du Quai Branly et demande, dans une lettre très bien écrite, en français africain parfait, que les ressortissants du pays Bamiléké revendiquent l'accès libre et gratuit au musée du Quai Branly pour que les ressortissants du pays Bamiléké puissent aller voir leurs œuvres. La lettre n'est pas considérée. Il la renvoie un an après, tout à fait aussi poli, en expliquant, on est maintenant déjà presque en 2017, que si le musée du Quai Branly n'autorise pas l'accès gratuit, le pays Bamiléké va demander la restitution de trois œuvres. Branle-bas de Camba au Quai Branly, on accepte tout de suite que les Bamiléké aient accès gratuit aux collections du Quai Branly. Les Camerounais, étonnés de ce succès, continuent. Ils appellent ça un chantage à la restitution et ils écrivent une nouvelle lettre un an plus tard où ils demandent que tous les Camerounais aient accès aux collections, aux expositions provisoires où sont montrées des œuvres bamiléké et camerounaises, etc. On accepte. Alors, comme ça marche aussi bien, les Camerounais demandent qu'à partir de maintenant, tous les Camerounais aient droit à un visa gratuit pour aller partout en Europe voir les œuvres bamiléké qu'ils voudraient voir. Les Italiens se mettent très en colère, on est en 2018, et expliquent que puisque c'est comme ça, et je cite le livre « Chers messieurs du Louvre », puisque c'est ainsi, les Italiens revendiquent, réclament, dans toute l'Europe, que les collections où il y a des tableaux italiens soient ouvertes gratuitement à tous les Italiens. À ce moment-là, les Camerounais, contents d'avoir mis en œuvre une dynamique européenne, demandent au Louvre que, puisque manifestement l'Europe considère qu'elle a des racines africaines, puisqu'elle laisse entrer les Camerounais gratuitement, que maintenant, il faudrait qu'elle prête ses grands chefs-d'œuvre, Bellini, Delacroix, etc., qu'elle les prête en garde partagée de temps en temps, de manière provisoire, à l'Afrique, pour que l'Afrique puisse voir ses chefs-d'œuvre. Deux conservateurs du Louvre tombent dans les pommes, excusez-moi, à la Commission européenne en apprenant cette demande. Les Italiens sont vexés, les Français demandent eux aussi que finalement tout soit ouvert, et je vous lis les deux passages à la fin de cette petite nouvelle de science-fiction. Page 55. On ne savait plus qui réclamait quoi, ni qui était avec ou contre qui. La colère était unanime. Mais de quoi parlait-on ? Du ressentiment français à l'égard des Italiens ? De celui des Italiens à l'égard des Éthiopiens, qui pourtant ne l'ouvraient plus depuis qu'on leur avait rendu ce grand truc en granit épais bien moche ? Ou de celui des Anglais à l'égard du reste de l'Europe britanniquement perçu comme un piège et un boulet. Bref, c'était la guerre. Une guerre d'usure. Une guerre des nerfs. rendue furieuse par la provocation italienne, la France demanda à son tour, officiellement, en avril 2019, la gratuité pour tous dans tous les lieux de culture. C'était la guerre, une guerre hystérique, mais une guerre tout de même. Seuls les chefs du pays Bamileke affichaient une forme de sérénité. Matois, ils observaient depuis le début de la procédure un phénomène insoupçonnable. Puis tout le monde était furieux, donc personne ne pouvait s'en rendre compte et nommer la chose. Mais voilà, l'Europe était en train de devenir gratuite. Un cercle vertueux était enclenché qui pourra amener les chefs à débarrasser leur propre culture de toutes les traces de la rapacité européenne. Si l'Europe devenait gratuite, il y avait fort à parier, étant donné les rapports infinis existants entre les deux continents, que l'Afrique ait elle aussi à brûler certaines idoles, dont le dieu Pognon, à réapprendre une certaine gratuité, une chance. Ce dieu-là était chez eux nettement plus jeune, ses racines étaient peu profondes, elles seraient faciles à extirper. Ce qui n'était pas le cas de l'Europe, loin de là. Mais pour lent qu'il soit, le processus semblait irréversible. Elle était en train de devenir gratuite, et c'était vertigineux. Cette gratuité, une certaine ligne de son histoire, en sommeil pendant longtemps, y menait maintenant sans barguigner. Un joli conte qui nous rappelle combien l'accès de tous à ces œuvres, quel que soit le lieu où l'histoire les a menés à un moment de leur histoire, est une condition peut-être pour faire accepter à tous que ces œuvres restent où elles sont et qu'elles soient conservées par les gardiens provisoires de l'humanité à un moment donné pour des œuvres données. Je vous remercie.